Père éternel, désormais, je remets ce moment en tes mains, Seigneur. Je prie et je te demande de l'assistance de ton Esprit Saint afin que cet enseignement, bien ce commentaire que je vais faire de ta parole, Seigneur, élève ton Fils et lui seul, Père. Je remets toutes choses en tes mains. Je remets l'entendement des uns et des autres et mon propre entendement en tes mains, puisque cette parole ça s'adresse d'abord à moi. Ô Éternel des armées, la paix. Donne-moi la grâce que les paroles, les erreurs qui ont été commises par les uns les autres, Seigneur Père, dans ce chapitre de 1 Samuel 8, ne soient pas vérifiées dans ma vie, là, Seigneur. Donne-moi la grâce de t'obéir en toutes choses, d'aimer et de pratiquer la justice, d'aimer t'obéir en toute occasion bonne ou mauvaise. Que ton nom soit béni et glorifié, là, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui font l'effort de m'écouter, tous les frères et sœurs qui partagent les choses avec moi après mon enseignement, Père, que tu les bénisses, que tu les soutiennes, que tu les gardes, ô Éternel des armées, et que tu les donnes la force de continuer de t'obéir, d'aimer t'obéir, Seigneur, en toute occasion bonne ou mauvaise. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, je prie la paix, qu'ils soient guéris au nom de Yeshua. Pour ceux qui ont des difficultés, Seigneur Père, tu as dit que tes yeux, tes regards parcourent la terre pour soutenir ceux qui te sont fidèles, ô Père, qu'il en soit ainsi. Pour mes frères et sœurs de par le monde entier, Père. Souviens-toi des frères et sœurs qui sont persécutés, là, Seigneur. Que leur foi ne défaille point, ô Éternel des armées, la paix. Souviens-toi de nos pays respectifs, Seigneur. Que la paix sociale y règne, Seigneur. Souviens-toi des pays en guerre, ô Père. Ta parole nous dit que c'est toi qui arrêtes le combat jusqu'aux extrémités de la terre, là, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, là, Seigneur. Que ces guerres s'arrêtent, ô Éternel des armées, la paix. Enfin, que ta parole puisse être prêchée, puisse être donnée, et que les âmes naissent de nouveau, ô Père céleste. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Que toute la gloire te revienne, dans le nom de Yeshua, Jésus. Amen et Amen. Mes frères et sœurs, bonjour et bonsoir. De ma position ici, c'est bonsoir. Hein? Voilà. Mais bon, je ne sais pas de votre position, là où vous vous trouvez, je ne sais pas. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure où vous écouterez cet enseignement. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2022. La guerre en Ukraine continue. Nous sommes toujours en crise sanitaire. Hein? Ça, il n'y a pas de doute. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est le mercredi 23 mars 2022. Nous allons continuer notre étude biblique ou bien notre commentaire dans du livre de Samuel. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 8, que nous allons commencer. C'est pas très long, hein, c'est le chapitre fait 22 versets à peu près. Donc, 1 Samuel 8, du verset 1 au verset 22. Voilà, donc, je vais lire dans la version hébraïque. Voilà, je le fais également pour que les uns les autres aussi puissent connaître d'autres versions de la Bible. Je rappelle que le livre de Samuel fait partie des livres prophétiques et que tout ce qui est écrit ici nous concerne et concerne la fin des temps. Donc, voilà la précision que je voudrais donner. Ce ne sont pas des livres historiques, mais c'est des livres prophétiques. Il faut aussi dire que toute la Bible est prophétique, puisque l'Esprit Saint nous dit à travers Paul que tout ce qui a été écrit l'a été pour nous, à nous qui sommes parvenus au temps à la fin des temps de la fin. À la fin des temps de la fin. Donc voilà, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour toi, c'est pour moi, et c'est pour nous tous, en fait, que nous puissions apprendre. Donc, la dernière fois, donc, nous avons vu dans le chapitre 7, donc, la repentance du peuple après une longue période, 20 années, sous la pression avant que le peuple ne comprenne que son salut ne se trouve qu'en l'éternel Dieu, qu'en dans l'adoration de l'éternel Dieu. De la même manière, ce monde se fourvoie dans ses propres voies. Ce monde s'est beaucoup éloigné, l'humanité s'est beaucoup éloignée donc de Dieu, de son Créateur, de son Père, en somme. Et l'humanité s'est trouvée beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dieu, beaucoup de divinités, beaucoup de sources, voilà, beaucoup de citernes. Mais ces citernes sont crevassées, ne retiennent pas l'eau. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de peuples, dans beaucoup de pays, même si vous posez la question qui est Jésus, bon, ne demandez pas Yeshua, c'est encore grave, ils ne sauront jamais, mais quand tu demandes qui est Jésus, ils ne savent pas non plus. Et les gouvernements respectifs ont tout fait donc pour éloigner l'éternel Dieu de leur peuple. Voilà, parce que la Bible est considérée comme une fausseté, la Bible est considérée comme une légende, et ils ont proclamé l'inexistence de l'éternel Dieu, d'Elohim. Mais néanmoins, nous voyons que malgré toutes les évidences qui se trouvent dans le monde, puisque Paul nous dit que même si les gens n'ont pas accès à la Bible, à la parole de Dieu, ils ont la nature qui démontre l'existence de l'éternel Dieu, du Créateur. Voilà. Malgré tout cela, les gens se fourvoient dans des religions ésotérico-mystico-païennes, dans les religions mystico-ésotérico-païennes, et ne veulent pas se convertir. Malgré tout ce qui arrive, les gens endurcissent leur cœur pour ne pas se soumettre à la parole de Dieu. C'est comme si les gens n'aiment pas le bien. Vous voyez, c'est ça. C'est ce qu'a amené le péché dans notre vie, quoi. La chair n'aime pas le bien. C'est comme si les gens n'aiment pas leur propre bien. Mais il faut dire aussi qu'il y en a un qui est l'ennemi de nos âmes, qui fait tout donc pour renforcer négativement les gens dans ce sens-là. Voilà, donc nous allons revenir à notre étude et commenter ces versets. Donc c'est sur le chapitre 8. Donc le peuple, donc après s'être repenti, maintenant est complètement dans l'adoration de l'éternel Dieu. Donc ils ont enlevé les idoles, voilà, et surtout les principales divinités cananéen, donc qui dominait le panthéon. Donc c'est une divinité mâle et femelle, donc une divinité qui est Astarté, la femelle, et Baal, le mâle, qui sont tous des dieux ou bien des divinités de la fécondité. Donc c'est ça. Et les Grecs n'ont repris que ça. Bon, il faut dire, les Grecs aussi, vous voyez aussi les divinités grecques et romaine, et même un peu partout dans le monde, vous allez voir que ces divinités ont toujours une femme, une épouse, vous voyez, ont toujours une épouse. Donc les humains projettent sur ces divinités leur propre structure, vous voyez. Donc ces divinités ne peuvent pas être plus grands que les hommes, puisque ce sont les hommes qui les ont créés, qui les ont fabriqués, d'accord. Alors que l'éternel Dieu Elohim est la source de toutes choses. Il est la source de lui-même, il est la source de l'existence et est la source de la vie. Il donne l'existence. Il est l'existence, il donne l'existence. Il est la vie et il donne la vie. Vous voyez, c'est différent de toutes les divinités qu'on peut trouver dans le monde. Voilà, donc le peuple est revenu donc à la vraie adoration, à l'adoration du Dieu un. Voilà, du Dieu un. Et Samuel, donc, a aussi agrandi, les années sont passées, et la Bible nous dit, dans 1 Samuel 8, le premier verset, que Samuel a grandi et est devenu vieux. Quand Samuel fut devenu vieux, il confia à ses fils le gouvernement d'Israël. Son fils aîné s'appelait Joël, où l'Éternel est Dieu, Yah est Dieu, et son fils cadet Abia, l'Éternel est Père. Père, vous voyez que la notion de Père ne date pas du Nouveau Testament. Il exerçait le gouvernement à Beer-Shabé, mais ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Ils recherchaient le lucre, acceptaient les dons corrupteurs et faussaient la justice. Je m'arrête là, après je vais continuer. Je vais maintenant lire dans la version, bon, lui second si vous voulez. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, l'Éternel est Dieu, le second Abia. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient donc des présents et violaient la justice. Vous avez vu? Donc, Samuel aussi, hein, comme Élie, est devenu vieux. Et quand on est vieux, on perd de la force, on perd de l'autorité. Et ces enfants-là de Samuel, donc, ont quand même observé comment leur père vivait, comment il obéissait à la parole de Dieu, comment il servait l'Éternel Dieu, comment Samuel aimait obéir à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Vous voyez? Donc, mais néanmoins, ces fils-là ont pris le contre-pied. Vous voyez, c'est comme des gosses de riches, quoi. Ils se sont, ah oui, nous sommes les enfants du chef. On voit ça aussi, hein, dans beaucoup de foyers, chez beaucoup de responsables. C'est-à-dire que les fils ne sont pas rigoureux. C'est comme si ils ont un privilège que les autres n'ont pas. Mais la Bible nous dit que Dieu n'a pas de petits-fils. Hein? En tout cas, c'est pas que la Bible qui le dit, mais on peut constater ça. C'est-à-dire que la foi, le salut n'est pas héréditaire. Le salut, ce n'est pas parce que ton père est sauvé, a le salut, croit en Jésus, qu'automatiquement, toi aussi, tu crois en Jésus ou en Yeshua. Ou bien, ce n'est pas parce que ton père est chrétien que toi aussi, tu nais chrétien. On ne naît pas chrétien. On le devient, on se repent, on se convertit. Donc, ces enfants, c'est comme s'ils ont des passe-droits, quoi. Vous voyez? C'est comme si Dieu est devenu leur ami. La familiarité. Vous voyez, donc, comme les fils d'Élie, on peut faire tout. Oh non, notre père est là, notre père va intercéder pour nous, notre père va faire ceci. D'accord? Donc, voilà ce que ces fils-là se sont imbus d'eux-mêmes. Hein? Donc, Samuel a cru bien faire en les établissant parce qu'ils se disent, ok, mes fils m'ont vu évoluer, ils connaissent, ils ont été dans la proximité, ils me voient prier, servir l'Éternel Dieu, ou bien ils auront la crainte, ils ont grandi dans ma maison, ils ne sont pas comme le reste du peuple. Malgré tout cela, vous voyez que, ben, ces fils n'ont pas cette crainte de l'Éternel, ils ont choisi une autre voie. Ouais, ils ont choisi une autre voie. On peut tout le temps élever nos enfants dans la crainte de Dieu, mais une fois devenus grands, ces enfants peuvent. Ben, j'espère que ces enfants sont revenus, hein, de leur égarement, quoi. Ou bien à la vue des privilèges qu'ils peuvent avoir, comme aussi les fils d'Élie ont fait, à la vue des privilèges qu'ils peuvent avoir. Ils se sont dit, on va en profiter, comme beaucoup de gens aujourd'hui veulent profiter de la naïveté des frères, veulent profiter de la dîme des offrandes. Et j'ai même appris, la dernière fois, on m'avait passé un message comme quoi il y a un pasteur, c'était en Côte d'Ivoire, qui a instauré, qui a au cours d'un culte, qui a fait 3 offrandes ou bien 4 offrandes, 7 offrandes, et ça a fini en bagarre. Vous voyez, les gens inventent des offrandes, des dons au cours d'un culte. Ah oui, maintenant la dîme, maintenant offrande pour ceux qui veulent bâtir mon hôtel, ceux qui veulent participer à mon ministère, tous ceux qui veulent avoir un mari, pour ceux qui veulent avoir des enfants, pour ceux qui veulent ceci, ceux qui veulent encore donner à l'Éternel. Donc on multiplie parce que les gens ont peur, ont la crainte de l'Éternel Dieu. Ils pensent que c'est ça, ou bien que les gens ont peur. Ces pasteurs responsables abusent de la crédulité de ces gens parce que les gens la craignent, les gens pensent donner à l'Éternel Dieu. Or, c'est le responsable, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est celui qui profite de la situation. Voilà, donc il faut vraiment être quelqu'un de propre, quelqu'un d'intègre. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, arrivé un moment, a dit à Abraham, marche devant ma foi et sois intègre. Ne te corromps pas. Reste intègre. Reste dans ma, quel que soit ce qui va arriver, reste intègre. Ne sors pas du chemin que je t'ai tracé. Or, les fils d'Israël, malgré leur nom, le premier, l'Éternel est Dieu. Malgré qu'il portait ce nom, il n'a pas eu peur. Ou bien l'autre, le second, l'Éternel est Père. Malgré cela, ils n'ont pas eu peur. C'est comme aussi les gens qui mettent sur leur boutique Dieu est grand, ou bien établissement, Dieu pourvoira, établissement, Jésus est Seigneur, établissement, ceci, cela. Ils mettent le nom de Jésus, le nom de Yeshua, le nom de l'Éternel Dieu sur leur boutique, sur leur entreprise. Mais si vous creusez un peu dans ces entreprises-là, c'est la corruption, c'est le vol, c'est la rapine, c'est la tricherie, c'est le mensonge, et c'est beaucoup, beaucoup de choses, vous voyez, que ces gens font. Ceux qui font cela blasphèment contre le nom de Dieu, ou bien prennent le nom de Dieu en vain en faisant ceci, en faisant cela. Ils pêchent contre le premier commandement de Dieu. Ou bien, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'as pas d'autre devant. Ou bien le deuxième, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, c'est le deuxième commandement. En vain, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Comprenons bien cela. Vous voyez, ces enfants n'honorent pas le nom qu'ils portent. Je ne sais pas si Samuel avait prié avant de les établir, parce que nous voyons que à la suite, lorsque le peuple va parler, tout ce que le peuple va dire, Samuel ira le rapporter à l'Éternel, comme si l'Éternel n'avait pas écouté, vous voyez, dans sa prière. Il répète les paroles du peuple et il prie avant de prendre une décision. J'espère, même si l'Esprit Saint n'a pas eu besoin de le dire, de le préciser, la suite peut supposer que Samuel a prié avant d'établir ses fils. Je ne sais pas. Ou bien il ne l'a pas fait. Il avait tellement confiance dans l'éducation qu'il avait donnée à ses fils, ou bien il avait tellement confiance dans l'intégrité de ses fils qu'il les a nommés juges. Je ne sais pas. Voilà, c'est une erreur. Nous sommes tous des êtres humains et nous en faisons. Donc, ses fils étaient donc juges, mais le constat dans le verset 3 nous dit, ses fils n'ont pas marché, n'obéissaient pas, c'était pas intègre comme Samuel, ne se conduisait pas à l'art, conduire, porter. Vous voyez, ils ne marchaient pas, ils ne se conduisaient pas comme le père, ou dans ce chemin que leur père a tracé. Vous voyez, c'est comme les fils d'Élie également. Vous voyez, la Bible nous dit qu'ils se livraient. Vous voyez, c'est pas, une conduite passagère, momentanée. Mais ils se livraient, ils se sont tournés carrément vers, ils se sont tournés vers cette conduite coupable. Le mot natar, natar veut dire détourner, tourner, pervertir, incliner. Vous voyez, c'est une inclinaison, c'est une habitude. Ça veut dire pencher, plier, incliner, courber, tourner. Vous voyez, c'est ça quoi. C'est, ils se sont tournés littéralement, ils se livraient, ils se sont tournés vers ces comportements-là. Donc c'est une habitude, c'est devenu une habitude, un comportement. Hein? Quelqu'un dit toujours que la nouvelle naissance est un changement de comportement. Normalement, c'est ça. L'Éternel Dieu nous change. Hein? Personne ne rencontre Jésus et rester la même personne. C'est pas possible. Donc, cette personne n'a pas vraiment rencontré Yeshua. Il se livrait. Vous allez voir que c'est à l'imparfait. C'est mode imparfait. Cela veut dire que il y a une continuité, une répétition. Il y a une répétition. Hein? Il y a une répétition. Il y a une répétition, une fréquente répétition de l'action. C'est ce qui exprime l'imparfait. Il y a une répétition, vous voyez, c'est un comportement, c'est devenu une habitude. Vous voyez, la Bible nous dit qu'il se livrait à la cupidité, l'amour de l'argent. Betcha. Profit, gain injuste. Ça veut dire profit, gain injuste. Profit acquis par la violence. Bon, peut-être que c'est pas la violence physique, mais c'est la violence psychologique ou verbale. Ou voilà, ou bien c'est la violence. Il manipule. Manipuler quelqu'un aussi, c'est lui faire violence. Hein. C'est l'ensorceler. Cela veut dire ça. L'ensorceler. Et le mot béchar se traduit aussi par butin, gain, intérêt, avidité. Avidité, vous voyez, avidité. Voilà, on voit ça dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui où les responsables sont avides de gains, veulent profiter au maximum parce qu'ils se disent qu'ils sont ministres de Dieu et que le ministre, ils confondent quoi. Alors que la Bible dit que nous sommes des serviteurs, des esclaves, des doulos de l'Éternel Dieu. Voilà, eux. Ces responsables veulent régner même avant Yeshua. Ils règnent avant Yeshua. Ils veulent régner avant Yeshua. Ils règnent avant Yeshua. Vous voyez, donc, ces enfants-là, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se livraient la cupidité à un gain. À un gain. Cupide, à un gain, à un profit. Hein, qui ne leur est pas destiné. Ils profitent de leur fonds. C'est un détournement. C'est un abus de confiance. Combien de pasteurs sont de, combien de responsables sont, même les gens avec une petite responsabilité, ils profitent également des femmes, des sœurs, ainsi de suite. Voilà, pour assouvir leurs besoins libidinaux. Ils font ça. Hein, l'impudicité, ils profitent, beaucoup de gens profitent de leur position pour intimider les sœurs, pour faire ceci, pour faire cela. Combien de scandales ont éclaté dans les assemblées? Vous voyez, on a même vu qu'il y a des frères qui ont enceinté quand même des sœurs et qui les ont avortées. Vous voyez, c'est double péché, ils ont péché. Mais encore, ils ont fait de l'assassinat, un meurtre, un sacrifice à l'ennemi de nos âmes, en tuant un innocent. La cupidité, l'amour de l'argent, l'amour des biens de ce monde. Or, la Bible nous dit, si c'est dans ce monde seulement que nous espérons en l'Éternel, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, de tous les Adams, de toute l'humanité, de tous les êtres humains, au fait. Et non seulement ils étaient avides de ça, de voir de gains, de profit, de leur position, avant qu'ils ne soient mangeons et buvons, hein. car demain nous mourrons, car demain nous ne serons plus à ce poste, quand notre père va mourir, c'est fini, on ne sera plus là. Oh ouais, donc construisons des maisons. Combien de pasteurs se sont enrichis, ils ont construit des maisons luxueuses avec piscine, tout, alors que la pauvre dame qui déposait un peu d'argent dans le tronc et demeure toujours pauvre et personne ne venait l'assister quand telle a besoin, lui dit, ok, ma soeur, on va prier pour toi, Dieu pourvoira. Recevait, voilà, il recevait la cache, la carte. Prendre, recevoir, apporter, enlever, saisir, acquérir, acheter, apporter, épouser, amener au loin, prendre en main, prendre et amener, se saisir, se procurer, capturer, saisir. Voilà ce que cela veut dire. La car. Voilà, il recevait. Je vois quel monde c'est déjà. Imparfait. Donc, c'est quelque chose de chronique, c'est quelque chose d'habituel, vous voyez. C'est comme ça, il recevait. Il ne disait pas non. Hein. Voilà, il mange et puis se lèche les babines, ni vu ni connu. Et recevait des présents. Hein, des présents. Shahad. Ça veut dire pot de vin, shahad. Pot de vin. Pot de vin recevait des pots de vin, des présents. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur les présents? Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Proverbe 17, le verset 23. Voyez, ces enfants de Samuel, par leur action, sont devenus des méchants. Des méchants, c'est-à-dire des pécheurs, qui ne marchait plus selon la parole de l'Éternel Dieu. C'est ça. Donc, il recevait ses présents en secret. Bien sûr, personne ne doit voir. Mais les gens l'ont vu quand même. Les gens ont vu. Pourquoi il recevait ses présents? Vous allez voir par la suite. Pour pervertir les voies de la justice. Vous voyez, c'était dit. Ça, Proverbe 17, le verset 23. Et Ecclésias 7:7, l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Voilà. Les présents corrompent le cœur. Proverbe 29, le verset 4. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. C'est ce que faisaient les enfants de Samuel. Normalement, le roi est censé être juste, vous voyez, être équitable. Il doit juger avec équité. Voilà. Mais comment? Si le roi recevait des présents, ben oui, mais il mène le pays à la ruine. Parce qu'il ne veut pas juger selon la justice. C'est ce que faisaient les enfants de Samuel. Ils ne peuvent pas. Le présent ferme la bouche. Le présent entraîne que le juste même va parler, ne va pas bien parler, ne va pas parler avec justice. Le présent corrompt le cœur. Hein? Ouais. Le méchant accepte le présent pour faire quoi? Pourquoi les gens acceptent des pots de vin? C'est pour tricher, c'est pour corrompre les voies de la justice. D'accord? C'est ça. Hein? Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Ben oui, on va faire ami. Celui qui fait des présents, qui donne, on le voit même dans les assemblées. Celui qui donne plus, celui qui donne les grosses dîmes, mais à la faveur du pasteur ou du responsable. Il a une place devant. Il peut donner des ordres. Il fait la loi. C'est celui qui donne, qui décide, hein. C'est ce qui a l'argent qui décide dans beaucoup d'assemblées. Il est considéré, on le nomme ancien, on le nomme à des pots de responsabilité. C'est pourquoi même dans certaines assemblées, pour faire les offrandes, les gens soulèvent la somme qu'ils donnent. comme ça en l'air et traverse toute l'assemblée pour aller déposer dans le tronc. Hein? Proverbe 15, le verset 26. Celui qui avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Voilà, les enfants de Samuel ont troublé la maison de Samuel parce que à partir de là, le peuple va demander quelque chose. Le peuple va partir de ça, de ce comportement des enfants, de ce péché des enfants de Samuel pour demander des choses, pour faire avancer ses pions. C'est ça, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, je continue donc. Et la Bible nous dit qu'ils acceptaient donc des dons corrupteurs, des dons pour pervertir la justice, des présents, des pots de vin, et faussaient la justice. C'est le continuum. Quand tu acceptes des présents, c'est pour pervertir la justice. Tu ne peux pas être juste, même dans tes paroles. Voyez, celui qui accepte les présents, il y a un verset comme ça, hein, ne peut pas être droit dans sa parole. Je pense qu'il y a un verset comme ça. Hein, ne peut pas être droit dans sa parole, ne peut pas bien parler. Vous voyez, sa langue va faucher lorsqu'il va parler, lorsqu'il va vouloir défendre la justice. Il parlera pas avec fermeté. Hein? Il ne parlera pas avec fermeté. Il y a un verset comme ça, mais je ne me rappelle plus de ce verset. Hein? Que le présent amène le juste à mal parler ou bien à parler avec injustice. Voilà, donc c'est ce que je voudrais dire. Si vous trouvez, vous me le dites. Hein? Voilà, d'accord? C'est ça. Donc, ces enfants de Samuel se livraient à cupidité et violaient la justice. C'est pas une fois, deux fois, mais c'est devenu un comportement naturel pour eux, un comportement permanent, régulier. Ils violaient la justice, ils nous rendaient. Au lieu, quand le juge devient injuste, alors là, on n'a plus de recours. On n'a plus de recours possible. Non, on le voit même dans nos pays, hein, dits démocratiques, où il y a des procès qui ne se terminent jamais, jusqu'à la mort des accusés. Parce que ces accusés sont des hommes politiques, des gens puissants, donc ils empêchent la justice de fonctionner. On a même attrapé des juges qui donnait des informations, même un procureur, non, a été embêté ici en France parce qu'il a donné des informations à quelqu'un de haut placé qui a été accusé de quelque chose. Vous comprenez? Donc, voilà comment les choses se passent dans nos pays. Hein? Il n'y a jamais de justice ici. Dans la démocratie, c'est un paravent, comme je l'ai dit. C'est de l'apparence. C'est une apparence de justice. Voilà. Seul le gouvernement divin est juste et équitable. Hein, d'accord? Et équitable. Donc, il recevait, c'est pour violer la justice. C'est pour ne pas faire justice à l'innocent. Peut-être qu'il déclarait le coupable innocent. C'est ça. Avec l'argent, on pourra vous déclarer blanc ou noir, n'est-ce pas? Si vous avez des sous, on va vous déclarer blanc. Et si vous n'en avez pas, vous êtes noir. Hein? C'est comme ça, mes frères et sœurs. Donc, ces enfants-là ne se conduisaient pas du tout selon la justice divine. On le voit également certains frères, lorsqu'ils pêchent, ils sont sévèrement sanctionnés, punis, comme on dit, ils sont sanctionnés. Mais quand c'est d'autres, il y a des circonstances atténuantes parce que c'est un gros donateur. Ouais. Les gens sont plus discipliné quand on est pauvre, quand on n'est pas connu dans l'assemblée, on est plus discipliné sévèrement, alors que quand on est connu, quand on est un responsable, on est moins discipliné. Il faut trouver des circonstances atténuantes, vous savez, le frère, machin, tout ça, et c'est un gros donateur, si on le perd, on ne peut plus faire ce projet. Dieu même sait, Dieu même connaît, Dieu est amour, machin, on trouvera tout des tas de raisonnements pour pouvoir atténuer l'ascension de ce frère, de ce gros donateur. Voilà, on lui pardonnera tout. Donc, à partir de là, voyez, le peuple, déjà, qui était aussi fragile de ce côté, hein, vous savez, le peuple est revenu à Dieu, mais il guettait quand même une faille. Et l'ennemi de nos âmes aussi est là pour les pousser dans ce sens-là, vous voyez, pour les pousser dans ce sens. Une faille, un peu de levain fait lever toute la pâte, n'est-ce pas? Donc, les anciens ont profité de cette situation pour contester l'autorité de Samuel et en le faisant contester l'autorité de l'Éternel Dieu. Donc, c'est ça. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas prêter le flanc au diable. Il ne faut pas prêter le flanc au diable. Hein, vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, soyons vigilants. Nous sommes à la fin des temps. Soyons vigilants. Et ne donnons pas accès au diable. Ne donnons pas accès à nos ennemis. Hein? Nathan l'a révélé à David lorsque David a péché. L'Éternel Dieu a dit quelque chose à David. Tu as fait blasphémer mes ennemis. Ces ennemis, ce ne sont pas les humains, mais ce sont les anges déchus et leur chef, le diviseur, l'accusateur de nos frères, diabolos, diviseur. Donc, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici, tu es vieux, c'est gentil, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Comme il y en a chez toutes les nations. Je vais lire dans la version hébraïque. Ainsi, tous les anciens d'Israël se réunirent, allèrent chez Samuel à Rama. Et lui dit, « Vois, tu es âgé, tes fils ne suivent pas tes voies. Donne-nous donc un roi pour nous gouverner, comme en ont tous les peuples. » Voilà, donc les anciens se sont engouffrés dans cette brèche et sont allés voir Samuel pour lui demander un roi. Mais le motif... Voilà, ils sont partis quand même d'un fait réel, d'une situation compliquée, parce que si ses fils, les filles de Samuel, étaient dans le péché, donc étant les chefs, les leaders du pays en ce moment, le peuple risque aussi de sombrer encore dans la corruption, puisque l'exemple vient d'en haut, n'est-ce pas? L'exemple vient d'en haut, comme on dit, l'exemple vient d'en haut. Donc, si la tête est pourrie, le corps aussi va l'être. Donc, ils ont demandé un roi, non pas pour solutionner ce problème, mais pour être comme tous les autres peuples. Ah, ils ne supportent plus la différence. Ils veulent se fondre dans ces peuples, dans la masse, être comme les autres. Être comme ressembler aux autres. Vous savez, dans la Bible, dans la table des nations, la Bible dit que Israël ne fait pas partie des nations. C'est dans Genèse 11, non, ou 10, où il y a la table des nations, on a 70 peuples primaires. Je dis primaires. 70 peuples primaires qui vont former toutes les nations que nous voyons aujourd'hui. Et Israël est elle-même une 71e nation à part. C'est la part de l'Éternel, Israël, En fait, c'est un peuple de prêtres qui devait enseigner la loi aux autres. Normalement, c'était ça. Donc, Israël, donc, elle est une 71e nation. On a 70 nations, les Arabes. Mais c'est cette particularité d'Israël. Peut-être que ça gênait les anciens, hein, alors que l'Éternel Dieu a tout fait pour séparer Israël des peuples, pour que Israël soit un échantillon, un modèle. Vous voyez? Un échantillon, une nation modèle. Un start-up, on peut le dire comme ça. Un start-up pour attirer les autres nations, pour montrer aux autres nations une vitrine de l'Éternel Dieu sur la terre. C'est ça, en fait. Mais ces anciens ne l'ont pas compris. C'est pourquoi la parole, vous avez vu que dans la parole de Dieu, depuis qu'Israël est sorti d'Égypte, l'Éternel Dieu Elohim leur a donné des lois pour séparer, pour les séparer des autres peuples. Mais oui, parce que si Israël est comme les autres peuples, mais les peuples ne seront pas attirés vers lui. Israël étant la lumière. La lumière attire toujours, n'est-ce pas? Était la lumière des autres, doit donner les uns, doit être un échantillon, la vitrine de Dieu sur cette terre. C'est ce que aussi l'Église est, la vitrine de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi Ecclesia veut dire appeler hors. L'Éternel Dieu, toujours, quand l'Éternel Dieu veut faire quelque chose, veut faire un modèle, il sort le modèle des nations. Il le met à part. C'est ça la sanctification. Sanctifier, c'est mettre à part. Israël est un peuple qui a été sanctifié. L'Église est un peuple, est un groupe, on peut le dire, hein, qui a été sanctifié. Mais c'est un peuple, mais c'est pas une nation. L'Église n'est pas une nation. Israël, c'est une nation. Parce qu'une nation, il faut un peuple, un territoire. Alors que l'Église n'a pas de territoire. C'est un peuple sans nation. Mais l'Église n'est pas une nation. L'Église est un peuple, mais n'est pas une nation. Vous saisissez? Voilà. Donc, l'Éternel Dieu appelle toujours hors. L'Église est la vitrine. La vitrine dans les nations du royaume de Dieu. C'est comme ça, appelé hors. Hors du monde, hors du paganisme, hors du système, hors de tout ce qui est contre Dieu. C'est ça. Mais ici, c'est le contraire. C'est comme aussi aujourd'hui, beaucoup d'assemblées veulent ressembler au monde, veulent refaire comme tout le monde, comme les autres, veulent se fondre parce que notre différence nous gêne. Ouais, nous sommes trop différents, les gens nous persécutent, les gens ne nous aiment pas, donc faisons comme les hommes, faisons comme eux pour les attirer. C'est faux. Ça ne va pas les attirer. Israël a fait cela, ça n'a pas calmé les nations. Les nations l'ont plus encore persécuté, n'est-ce pas? L'ont plus encore persécuté. Israël est devenu idolâtre, mais ça n'a pas empêché les Philistins de les attaquer, de les massacrer, de les dominer. Israël a voulu être comme les Philistins en adoptant les dieux cananéens, mais ça n'a pas épargné la vengeance de ses peuples. Pire, en faisant cela, tu n'attireras que du mépris. Et c'est ce qui s'est passé dans certaines assemblées. Hein, comme disait un frère, en tout cas, je pense que c'est un pasteur, je ne sais pas, mais j'ai cherché le monde, j'ai cherché l'Église. Je l'ai trouvé dans le monde. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'Église. Et voilà, dans certaines assemblées pendant la Coupe du Monde ou les événements sportifs, le lieu de réunion, le lieu du culte s'est transformé en terrain de foot. C'était en Allemagne. C'est une abomination, ça. Là où on dit qu'on célèbre le culte à l'honneur de l'Éternel Dieu, on installe des buts, on joue au foot pour attirer les jeunes, machin. Non, c'est pas ça qui va attirer les jeunes. C'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui les attire. Nous ne faisons rien. L'Éternel nous dit seulement, présente-toi, prêche là-bas. C'est pas toi qui fais, c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, mes frères et sœurs. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui attire, qui convainc le monde. de péché, de justice et de jugement. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas ce que nous disons qui convainc qui que ce soit. Non, c'est pas ça. D'accord? Mais Israël ici, il a voulu être comme tous les autres peuples. Nous voulons être pareils. Nous voulons être comme tout le monde. Alors que l'Éternel Dieu leur a dit, mais non, vous ne devez pas être comme ça. Vous ne devez même pas aller chercher comment ces gens-là adorent leur Dieu, font ceci pour faire pareil avec l'Éternel Dieu. Pas de syncrétisme. Pas de syncrétisme. Il faut être différent. L'Église doit être différente. C'est lorsque l'Église est différente qu'elle attire les païens, qu'elle attire, c'est lorsque la lumière brille, parce que si l'Église veut, si les chrétiens veulent être comme le monde, veulent être comme tout le monde, mais leur lumière va être sous la table, sous le boisseau, leur lumière ne va plus éclairer, ils ne peuvent plus, les chrétiens, si les chrétiens veulent se comporter comme le monde, ils ne peuvent plus refléter la lumière de Yeshua, c'est fini, ils ne peuvent pas être comme une lettre écrite aux gens de ce monde. C'est pourquoi il est important de se sanctifier, de nous mettre à part. Dieu, la parole de Dieu, mais nous sépare. Nous sépare. Lorsque nous décidons d'obéir à l'Éternel Dieu, ben, ça nous sépare. C'est ce que la Bible dit. Celui qui prononce le nom de Yeshua, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ou bien celui qui veut vivre pieusement dans le Messie sera persécuté aujourd'hui. Bon. Dans beaucoup de pays, l'Église n'est pas persécutée, les chrétiens ne sont pas persécutés. Mais ça va venir. Ça va venir parce que pour réveiller l'Église, l'Éternel va permettre la persécution. Que les États vont émettre des lois contre les chrétiens tellement que les chrétiens n'auront pas d'autre choix. Soit tu choisis le camp de Dieu, toi tu choisis le camp du monde. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de centriste dans la maison de Dieu. Soit tu es avec Yeshua, soit tu es contre lui, c'est ce qu'il a dit. C'est quelque chose de dichotomique, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, donc les anciens ont profité donc de cela pour demander un roi, non pas que les rois les gouvernent, mais c'est aussi pour être comme les autres peuples. Non, nous voulons comme être les autres peuples. Alors, cela déplut le verset 6 à Samuel de les entendre dire, donne-nous un roi pour nous gouverner. Il adressa une prière au Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, cède à la voix de ce peuple, fais ce qu'il te dit. Ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi-même dont ils ne veulent plus pour leur roi. Comme ils ont constamment agi depuis que je les ai tirés d'Égypte jusqu'à ce jour, me délaissant pour servir les dieux étrangers, ainsi agissent-ils encore sous tes yeux. Cède donc à leur voix, non toutefois sans les avertir et leur exposer les procédés du roi qui les gouvernera, ou bien les prérogatives du roi qui les gouvernera. Donc Samuel, mais oui, c'est vrai que quand tu es censé être le gouverneur, le chef, le prophète, le sacrificateur qu'on vient te dire ça, ben il est humain. Hein? C'est comme si le peuple dit oh, t'es vieux, allez, dégage. Vous voyez, c'est ça quoi. T'es vieux, tu es devenu gaga, tu ne fais plus rien, tu ne possèdes même, tu n'es plus en possession de tes facultés cognitives. Ainsi de suite, allez, dégage de là, tu es vieux. Voilà quoi. Les vieux, il faut les mettre en maison de retraite. Vous voyez, c'est ça quoi. Qu'on lui a dit, ça lui a déplu, il n'était pas content du tout, Samuel, parce que il était censé être le gouverneur, comme le roi, quand il n'est pas le roi, parce que c'est l'Éternel même qui régnait sur Israël, comme aujourd'hui, c'est Jésus qui est le chef, Yeshua qui est le chef de l'Église, c'est lui le roi, c'est lui le chef de l'Église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les ministères, ce n'est pas le prophète, ni les apôtres, ni rien du tout. Ce n'est pas l'apôtre, non. Ni le prophète, ni l'évangéliste, ni l'enseignant, ni personne. C'est Jésus, le Messie. C'est Yeshua HaMashiach. Le mot Mashiach veut dire ça. Ça veut dire le roi oint. Meler HaMashiach. C'est ça en hébreu. Meler HaMashiach. abrégé Mashiach, c'est le roi Oin. C'est le roi Oin. Donc, Samuel est allé prier l'Éternel Dieu. Je ne sais pas s'il a fait dans le cas de ses fils avant de les établir. Mais comme il le fait ici, c'est bon, on suppose qu'il a fait. Mais bon, voilà. Hein? Donc, l'Éternel lui explique que non, ce n'est pas toi. C'est lui, plutôt l'Éternel, qui vise. Il te rejette. En te rejetant, Samuel, c'est moi qu'il vise. Voilà. Et ils ont toujours fait ça. Parce que l'être humain ne supporte pas le joug. Depuis le péché, voilà, on ne supporte plus le joug. Notre chair s'est corrompue. Notre cœur, comme dit la parole de Dieu, que l'Éternel Dieu a vu au temps de Noé, que le cœur de l'être humain est tout le temps constamment dirigé vers le mal, vers ce qui est contre l'Éternel Dieu. Donc c'est l'Éternel qui rejette, parce que c'est l'Éternel qui a donné l'autorité à Samuel. Il est le roi, il délègue son autorité au juge, au gouverneur. Juge veut dire gouverner, c'est pas simplement dans le sens de la justice du magistrat, mais ça veut dire gouverner. Ça fait pas au jeu jugé d'administrer, voilà, d'administrer. C'est ça. Samuel était le représentant de l'Éternel Dieu sur terre. Et en rejetant Samuel, disant ça à Samuel, c'est pas Samuel qui vise, mais c'est l'Éternel lui-même. Et comme ils l'ont toujours fait, l'Éternel a dit, hein, non pas que le roi les gouverne, mais c'est pour encore s'adonner à des dieux étrangers. À des dieux étrangers. Ouais, c'est ce que l'Éternel dit. Qu'ils ont toujours fait ça depuis l'Égypte. Hein, ils sont sortis, malgré tout ce que l'Éternel a fait, ils avaient fait le veau d'or. De la même manière, nous aussi, hein, nous désobéissons malgré tout ce que l'Éternel a fait. Ça, c'est notre chair. Ça, c'est pourquoi nous avons besoin de prier, de demander à l'Éternel Dieu de nous aider à rester dans sa parole, à rester sur le chemin. Ce chemin est dur et rocailleux. Le chemin est dur, mais nous devons persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, va atteindre le salut. Non seulement le salut de son âme, mais également va rentrer dans la gloire de Dieu. Donc, l'Éternel Dieu, donc, Elohim, a demandé donc à Samuel de faire ce que le peuple lui demande. Hein? Que c'est pas toi, mais c'est l'Éternel Dieu. Yeshua aussi, il a dit que celui qui le rejette, rejette sa parole, c'est pas lui, Yeshua, que les gens rejettent, mais celui qui l'a envoyé, l'Éternel Dieu. Parce qu'il ne fait que ce que son père lui dit de faire. Il vivait dans l'obéissance totale, dans une relation de dépendance vis-à-vis de son père. C'est ce qu'on nous demande aussi, de dépendre de l'Esprit Saint, de dépendre de lui en toute occasion bonne ou mauvaise. Donc le peuple, en délaissant l'Éternel Dieu pour aller servir des dieux étrangers, fait montre d'infidélité. C'est un rejet de Dieu, de l'Éternel Dieu, de leur Père. C'est un rejet. C'est un rejet. Et ils ont toujours agi comme ça. Et ainsi, ils agissent encore sous les yeux de Samuel, que l'être humain n'a pas changé. Donc, de céder à leur voix, mais quand même de les avertir des conséquences. Mais oui, lorsqu'on quitte la juridiction de Dieu, de l'Éternel, d'Elohim, il y a des conséquences. Parce que c'est un roi humain. C'est pas un roi divin. C'est un roi humain avec ses défauts. Avec aussi le fait que ce roi peut ne pas être dans la volonté de Dieu. Peut prendre des décisions contradictoires à la volonté de Dieu. Que ce roi aussi peut pécher. Que ce roi va utiliser. Regardez, pendant la guerre, c'est les enfants du pauvre qui meurent, n'est-ce pas? C'est militaire. Vous avez déjà vu un président qui allait à la guerre, sauf celui du Tchad qui est allé à la guerre. Aucun président ne va à la guerre. Aucun ministre n'y va. On envoie des enfants, des soldats qui meurent, des enfants de pauvres qui meurent, non, n'est-ce pas? Les enfants des autres, le président, lui, il est protégé. Il est évacué en cas de trouble, en cas de bombe sur la capitale. C'est le peuple qui périt, vous voyez? C'est ça. C'est ce que l'Éternel Dieu a voulu leur dire. Lorsque l'Éternel régnait sur Israël, ils ne prenaient rien, ils ne prenaient pas leur bœuf, ils ne prenaient rien. Les sacrifices, ce n'était pas pour l'Éternel. L'Éternel ne mangeait rien du tout. On n'a pas besoin de manger les sacrifices. Mais c'est pour le péché du peuple. C'est pour nous. Hein? C'est pas pour l'Éternel Dieu. Hein? C'est pour nous que Yeshua est venu dans ce monde et donner sa vie. Hein? C'est pour nous, hein? C'est pour l'humanité. C'est pas pour le Père. Hein? Nous devons comprendre cela. Donc, le peuple pensait se débarrasser ainsi de Samuel et de ses fils et du coup faire d'une pierre deux coups et puis ne plus se soumettre à la parole de Dieu, mais d'avoir un roi qui va les gouverner. Et si ce roi n'obéissait pas à la parole de Dieu, ça n'est fini. On l'a vu au cours, on va le voir au cours des royautés ou bien des différents rois qui vont se succéder. On va le voir. Comment les décisions ont été prises et qui ont amené à la catastrophe. Donc, l'Éternel Dieu a recommandé à Samuel de dire au peuple de donner une liste de prérogatives du roi. Hein? Voilà, les prérogatives du roi. Samuel, donc, le verset dit, rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Donc, Samuel, fidèle à ce que l'Éternel lui a dit, a rapporté donc les paroles de l'Éternel donc au peuple. Nous allons nous arrêter ici et puis je continuerai après du chapitre 11, du chapitre 10 10 donc au verset 22 dans une deuxième partie pour éviter que l'enseignement soit long. Merci pour votre compréhension. Shalom à vous.